les chasseurs de son, il est 10h et quelques minutes. Aujourd'hui, très peu de musique, hein. On commence avec ce petit truc-là un peu minimal. Mais aujourd'hui, je vous propose eh bien, la suite de ce que vous avez entendu il y a un mois à peu près dans cette émission, si vous l'écoutiez. Un débat, enfin une conférence hein, organisée par l'association Survie sur la situation au Centrafrique. Et ce débat, cette conférence était suivie d'un débat avec des interventions, ma foi, assez intéressantes dans la salle de diverses personnes. C'est ce que je vous propose d'écouter aujourd'hui. Voilà. Conférence débat organisée par Survie le 14 février à La Griffe, à Lyon. La librairie La Griffe.
C'était juste pour réagir par rapport à la situation que je trouve des civils centrafricains et la gestion des élites. C'était pour dire, en fait, au-delà que ce soit une indépendance qui a été tuée dans l'œuf par l'assassinat, enfin maquillé, soit l'accident de Barthélemy Boganda. En fait, je voulais dire, c'est une grosse part de responsabilité du coup de l'élite bourgeoise néocoloniale qui a été mise en place, donc par sa faiblesse au niveau économique, a été obligé de jouer sur le clientélisme ethnique, politique, pas vu et baptisé, dans sa gestion clanique du pouvoir. Et c'était pour dire qu'une grosse responsabilité aurait de la part des élites centrafricaines aussi. Pour ce petit note d'espoir, soit pas trop le chaos, voilà. J'ai vu des reportages sur Arte, aujourd'hui quand on a suivi son patron par les politiques, ils en ont limite peur. Enfin, moi je pense aujourd'hui, s'il y a une alternative de solution, c'est que la jeunesse centrafricaine doit se réintéresser à son histoire, à la vraie histoire, parce que ce qu'on a renseigné dans la scène éducative, ce sera toujours, ils occuperont toujours des parties, comme au Cameroun et tout sur la guerre cachée, aux origines de la France-Afrique. Je pense que la jeunesse centrafricaine doit se mobiliser pour qu'elle soit, pour avoir accès aux vrais faits historiques et déjà pour plus reconnaître les mêmes erreurs que l'an passé, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'illustration de ce qui s'est passé hier. Et je pense aussi que, au vu de tout ce qui passe, il faut être réaliste, le destin africain aujourd'hui, il n'est pas un africain ou il n'est pas. Ou ce destin, il ne sera pas. Il est soit pas un africain, soit les territoires sombrés dans les guerres civiles et tout. Donc je pense que tous les panafricanistes, centrafricaines, dans tous les pays d'Afrique en guerre et in extenso dans tous les pays d'Afrique, devraient se réunir pour concourir à la gestion politique de leurs états respectifs. Déjà Boganda l'a illustré, il voulait, au départ ce qu'il a appelé RCA, en fait, c'est qu'il voulait faire une union du Bandichari, le Congo Brazzaville et
Boganda est vraiment important sur cet aspect parce qu'il y avait une vraie volonté panafricaniste. C'était quelqu'un qui voulait un grand État en Afrique centrale avec la RDC, avec un petit peu ce qui est actuellement la communauté économique des États d'Afrique centrale. Donc en fait, on a un petit peu cette entité dont il avait rêvé, c'est un peu la CEAC à l'heure actuelle. Et pour en dire, oui, je pense que, évidemment, les élites centrafricaines ont bien évidemment une part énorme de responsabilité dans la catastrophe que vit leur pays. Pour le coup, oui, il est à espérer que la jeunesse réussisse à se mobiliser. Jeunesse qui est extrêmement importante en Centrafrique, puisque je crois que 40% de la population a moins de 15 ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est un chiffre qui est assez hallucinant. C'est une très grande part de la population, ce qui fait qu'il y a aussi un très grand nombre d'enfants soldats et un très grand nombre de personnes traumatisées en bas âge à l'heure actuelle, ce qui est aussi problématique pour l'avenir d'avoir des... Mais il y a toujours possibilité de... Disons que la situation est très noire, mais oui. Évidemment, il est possible de reprendre la main.
Je pense que ce sera cette génération pour un tournant. Si elle arrive à inculquer à ses prochains enfants de transcender très vite son appartenance ethnique, religieuse, une appartenance à se reconnaître en tant qu'Africain, je pense déjà un grand pas sera fait. Après, c'est sûr que il faudrait que ce soit encadré par le processus de démocratisation, mais bon, enfin, vu comment c'est parti, c'est pas trop élevé. Mais voilà, je pense que déjà si au niveau des mentalités, il va y avoir un changement, voilà, au niveau de la reconnaissance de ce qu'on est, enfin, ce sera déjà un énorme pas de l'avant.
Il y avait le monsieur à côté de... et puis la demoiselle déjà tout à l'heure. Donc, monsieur et madame après. Là. Bon, madame et monsieur, comme vous voulez. Allez, bon, madame.
D'accord, j'ai une question beaucoup plus générale parce qu'on voit souvent, ben, ça a commencé par le Mali, maintenant c'est la Centrafrique. Enfin, en ce moment, ce que je retiens de l'actuel gouvernement, c'est les interventions en Afrique. Donc concrètement, qu'est-ce que fait la population civile française face à tout ça? Parce qu'on est là, on dénonce. Mais rester acteur et ne rien faire, c'est aussi cautionner ce qui est en train de se passer là-bas. Parce que concrètement, qu'est-ce qu'il y a à faire? Parce que au-delà, parce que je pense que la population civile peut intervenir, peut empêcher, parce que c'est des gens qu'on élit, qui sont nominés, donc rester là sans rien faire, c'est aussi cautionner ce qui se passe là-bas. Donc c'est bien facile de dire oui, c'est pas bien, mais au-delà, la responsabilité vient aussi des pays africains, mais nous sommes aussi ici tous responsables de ce qui se passe là-bas.
Il y a évidemment une... nous, particulièrement à Survie, on alerte et on condamne tout ce qu'on peut. On écrit aux uns aux autres. On essaye de... Mais dans la mesure où, oui, il faut, typiquement pour ce qui est des opérations françaises, il y a une véritable contrôle parlementaire à avoir, par exemple, ou une véritable maîtrise de la politique française en Afrique. Et je pense que dans d'autres pays, il y a aussi la question de l'Union africaine. Quelle est la part de l'Union africaine dans tout cela, et le poids des sociétés civiles africaines en général dans le contrôle de leurs dirigeants aussi, en fait, la même logique que chez nous.
Monsieur, et puis après...
Donc, en fait, sur la question de l'analyse de géopolitique, on va parler de France, mais c'est vrai qu'il faut... Il faut quand même prendre du recul par rapport à cela, prendre relire toute l'histoire de l'Afrique, mais pas seulement du côté français, il faut aussi le voir avec tout le monde anglo-saxon, la Belgique. On ne parle pas particulièrement pour la Centrafrique. Il faut comprendre que Bangui s'est installé là. Il y a tout un processus historique, géographique et militaire. Pourquoi Bangui? Parce qu'en fait, en face, c'était la Belgique. Il y a cette rivalité qui est toujours présente, en fait, dans aujourd'hui, quand il y a des crues, par exemple, c'est pas une ville très salubre. Voilà, donc pourquoi encore en ville? Pourquoi cette ville s'est développée là? C'est pour des raisons géopolitiques à la base. Bon, mais... Et là, j'abonde avec ce que a dit monsieur. C'est vrai qu'à un moment donné, quand la Chine a progressé du fait peut-être de l'abandon relatif, notamment de la France, à cause de sa situation politique de l'Afrique, parce que ça va abonder dans votre discours, et en fait, ça a déstabilisé l'Afrique en général, qui a fait que certains acteurs des internationales ont trouvé là des moyens pour intervenir. C'est notamment le cas de la Chine, qui est intervenu par exemple la construction de l'hôpital. Ça fait longtemps que quand même il aurait dû y avoir un hôpital construit, un hôpital digne de ce nom, construit à Bangui. Bon, ce qui se trouve, ce sont les Chinois qui l'ont fait. Donc on peut que se féliciter. Évidemment, à partir du jour où à l'époque de Bozizé, président, un contrat sur la question de l'uranium se contracte donc avec la Chine, effectivement, tout bascule. Donc j'abonde avec ce que vous dites, il y a bien une question quand même économique, mais surtout énergétique. C'est-à-dire que la France étant très liée dans son indépendance énergétique à la question du nucléaire, c'est tout un débat, des voies qui sont très complexes à expliquer, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de coulisses derrière ce qu'on nous présente. Et la réalité, c'est quand même la souveraineté énergétique d'un pays comme la France. Et bien, elle est liée, évidemment, dans cette histoire-là, à la question de l'uranium, de même que pour la Chine. La Chine, qui est ce grand pays qui se développe avec cette énergie de développement colossal, qui s'est réveillée, eh bien, elle a besoin d'énergie. Cette énergie, pour fournir l'énergie dont elle a besoin, on voit tous les problèmes qu'il y a avec le barrage des Trois Gorges. Hein, tout ce que ça, tout ça, ça fait comme problème, c'est que ça n'est pas suffisant pour créer cette énergie. Il faut d'autres choses. Et d'autres choses, c'est le nucléaire. Donc, la Chine a besoin de nucléaire. La Chine a besoin de nucléaire, aussi qu'il y a de l'uranium. Bah, il y a de l'uranium en Afrique. Donc, voilà. Donc là, on a déjà un éclairage différent. La question peut-être, c'est d'un point de vue des juridiques internationales, comment aujourd'hui les institutions, qu'elles soient, et là la place de la diaspora africaine dans son rôle, dans les pays européens ou ailleurs, pour appuyer justement le droit international, la souveraineté des États. C'est quand même ça qui est en jeu.
Après la souveraineté des États, typiquement, si les Centrafricains décident de vendre leur uranium à la Chine, c'est ce qu'on a fait du souverain. Et ce serait même quasiment pas une bonne nouvelle. Mais ça montrerait au moins qu'il y a.
C'est une question de droit international, c'est la question de la souveraineté des peuples.
Tout à fait. Donc s'il y a une chose qu'on peut espérer, c'est qu'un jour les Centrafricains puissent vendre leurs ressources à absolument les personnes qui ne sont plus avoir cette contrainte et ce poids de la France.
Monsieur qui a pris la madame derrière, si on peut être attentif.
Donc, moi je dirais que quand vous disiez que les gens ne faisaient pas grand chose, je pense que c'est pas aussi vrai, aussi simple que ça. S'il y a des gens au niveau international qui sont, il y a plein d'ONG qui sont présentes en Centrafrique, qui sont présentes depuis plusieurs années, qui ont alerté, qui essayent d'avoir accès aux médias. Bon, malheureusement, les médias qui nous écoutent, il y en a un qui est en mauvais état, c'est Libération. Le Monde essaie un peu de nous écouter, mais c'est compliqué. Parce que une des remontées d'informations qu'on a, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a qu'un axe qui est le Bouarbangui, qui est à peu près maîtrisé, où on emmène les journalistes. Mais dans tout le reste du pays, certaines personnes qui ont fait du terrain sur Rwanda ou sur la Bosnie disent qu'ils n'avaient jamais vu ça. On est à des niveaux d'horreur qu'on a.
Oui, c'est extrêmement. On a
c'est très violent. Les médias occultent tout parce qu'ils sont uniquement sur l'axe Bangui-Bouar qui est à peu près sécurisé. Ouais.
Dans tout l'est du pays, on a absolument aucune idée de ce qui peut se passer dans toute la zone diamantifère, par exemple, et tout ce qui se passe au sud-est du pays. Et genre, par exemple, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer à Abobo, qui est un triangle tout à la pointe du triangle en bas à droite. C'est là où il y avait la Lord Revolution Army, donc la LRA, qui était un groupement armé extrêmement violent, qui capture des enfants. Donc vraiment, et donc, par exemple, on n'a aucune donnée, on ne sait pas du tout ce qui se passe, si son mouvement est toujours en activité, s'il est en recrudescence. Et même au niveau des exactions de base, on a vraiment, comme vous le disiez, on a Bangui Bouar, Bangui Bossangoa et Kagarandoro. C'est à peu près tout ce qu'on a, et sachant que des missions qui se font pour l'instant et des données qu'on a, c'est dans un cercle de 100 km autour de Bangui. À chaque fois que les troupes françaises arrivent avec des journalistes dans le village en question, il y a à peu près une centaine de morts par village. Je suis quotidiennement je n'ai plus vu depuis, sur la tête depuis la mi-décembre, on n'a plus totalisé le nombre de morts. Il n'y a plus de chiffres. On s'est arrêté à cette. Il y a eu ces 1000 morts à partir du 5 décembre. Depuis, on n'a plus compté parce que le chiffre doit être vraiment extrêmement important. On a, à mon sens, bien plus de 10 000. Surtout que la crise, en tout cas, c'est certain. Mais oui, il y a un brouillard, en fait, véritablement, sur énormément de zones du pays. Et il est à craindre que la force africaine, les forces françaises avançant, on découvre des situations village par village extrêmement, extrêmement dures.
Alors, il y avait une question là, Adam, et puis après j'ai une question, mais après,
oui. Est-ce qu'on a une idée à peu près du nombre de réfugiés dans les pays frontaliers?
248 000. Le chiffre d'hier, c'est 248 000 sur toute la crise. C'est-à-dire qu'il y a, de déplacés, il y en a 1 million à peu près, donc un quart de la population centrafricaine. De la même façon, c'est des chiffres qu'on lance en l'air. On n'a pas de données vraiment très précises de combien sont partis en brousse. Il y a 1 million de déplacés, notamment à Bangui, énormément, et 248 000 réfugiés dans les pays voisins, ce qui comprend les populations donc dites musulmanes qui ont fui ce dernier mois, mais aussi toutes les populations centrafricaines qui ont fui l'avancée de la Séléka, qui s'étaient réfugiées au moment de la crise. Donc il y a ces deux populations qui sont au Tchad, au Cameroun, principalement. Donc le chiffre, c'est des chiffres qui sont énormes. Hein. Et on a notamment à Bangui un camp déplacé de 100 000 personnes depuis un mois et demi sur l'aéroport de Bangui. Donc à deux pas de l'opération Sangaris, il y a 100 000 personnes qui sont là. Et il y a des exactions qui sont commises dans ce camp-là. Et il y a un toilette pour 1 200 personnes. Donc c'est vraiment une situation humanitaire qui est catastrophique et qui est si ça continue pendant un mois, la saison des pluies arrive d'ici peu, ça risque un risque de choléra est vraiment très fort. La situation humanitaire est vraiment terrible.
Alors moi tu me parles du Tchad. On a vu que la France s'est appuyée sur le Tchad pour son intervention au Mali, l'opération Serval, ce qui a permis de donner à Idriss Déby une place très importante dans cette région. Aujourd'hui, elle est très présente aussi en Centrafrique et je voulais juste que tu nous fasses un petit rappel.
Oui, alors le Tchad a vraiment pris la main en Centrafrique à partir de 2003 avec l'arrivée de Bozizé. Et c'est encore le cas à l'heure actuelle. Le Tchad a un très fort poids, mais qui est extrêmement ambigu, puisque le Tchad a soutenu la Séléka et a continué à soutenir les Séléka, et notamment d'un certain nombre de, selon des rapports de l'ONU, de l'Observatoire des droits de l'homme de l'ONU, un certain nombre de soldats de la Séléka portaient des brassards de la FOMAC, donc qui était la force africaine, donc des brassards tchadiens de cette force. Donc il y a vraiment une collusion entre les rebelles qui ont créé le désordre assolé dans le pays et des soldats tchadiens. Donc il y a un jeu extrêmement trouble du Tchad, véritablement à l'heure actuelle. Ils sont dans la force d'interposition, mais ils ont des liens très forts avec les rebelles. Il y a aussi qu'il y a un très grand nombre de Centrafricains d'origine tchadienne et de Tchadiens à Bangui, tout particulièrement. Les Tchad les a évacués, a fait une opération de rapatriement, comme la France en avait fait en Côte d'Ivoire, mais avec des méthodes extrêmement musclées, en défendant ces populations. Donc c'est un pays qui est désormais c'est un pivot un petit peu de la Centrafrique à l'heure actuelle. Idriss Déby n'était pas vraiment un personnage reconnu il y a quelques années, mais via ces deux opérations là et du fait que le Tchad accueille l'opération Épervier, c'est une opération qui dure depuis 1986, c'est la base des avions français en fait en Afrique, et à partir du Tchad l'armée française rayonne et donc il y a besoin d'Idriss Déby, et donc il y a un jeu d'alliance qui se fait avec ce dictateur et qui est particulièrement dommageable pour la Centrafrique à l'heure actuelle, puisque il y a des troupes qui sont jugées parties totalement dans le conflit.
Une question, monsieur.
Ouais. Oui. Enfin, déjà, je voulais parler de l'axe franco-tchadien, donc c'est fait. j'ai une deuxième affirmation, mais des personnels, mais je le dis, c'est que la volonté qu'il n'y ait pas de chiffres, elle est voulue. C'est-à-dire qu'on compte plus, ou on compte, mais on ne donne pas les chiffres. Parce qu'il ne faut pas que ce soit un échec.
Ouais.
Et à partir du moment où il y a des chiffres, ça devient un échec. Parce que si vous annoncez que vous faites une opération pour sauver des vies, mais que vous avez 60 000, 100 000 morts, bah, ça ne marche plus quoi, pour sauver des vies. Donc on ne donne pas de chiffres. Ce n'est pas la première fois, hein, toute intervention de pays de l'OTAN à l'étranger donne tout le temps ça. C'est-à-dire, au début, on vous dit tout va bien, et puis quelques années après, vous avez les chiffres qui tombent et vous rendez compte que tout n'allait pas très bien. Et je voulais, Antoine, c'est une question plutôt... justement par rapport à l'axe franco-tchadien, c'est qu'aujourd'hui on sait que le Tchad joue, bah, comme tu le disais, un double jeu assez flou et assez malsain, et notamment en termes d'armement, parce qu'on sait que par le Tchad transite énormément d'armes. Et est-ce qu'il y a eu un changement depuis l'intégration du Tchad aux côtés de la France? C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu des informations comme quoi le Tchad fermait enfin ses frontières? aux armes, en tout cas, je parle pas aux gens. Ou est-ce que, au contraire, il n'y a eu aucun changement, ce qui veut dire qu'au final, d'un côté, on est du côté, je mets des guillemets, des gentils, et puis on a des méchants, entre guillemets.
Alors, Idriss Déby, François Hollande a reçu Idriss Déby pas plus tard qu'hier soir, à 18h, donc j'ai pas eu le temps. Il n'y a encore rien sorti. Mais donc, il y a un axe très fort, et la situation évolue un petit peu, puisque, oui, le Tchad commence à être pointé du doigt comme un des facteurs de trouble dans la région. Et donc remettre un peu en cause cette place qu'il a, notamment le Congo Brazzaville. Denis Sassou Nguesso au Congo essaye de pousser en avant son leadership. Il y a une lutte de leadership en Afrique centrale, au niveau de la Centrafrique, entre le Cameroun de Paul Biya, le Tchad de Idriss Déby et le Congo de Denis Sassou Nguesso. Ces trois-là s'affrontent un petit peu par une guerre interposée en Centrafrique, chacun essayant de récupérer cet espace pour le dominer par la suite. Et donc pour ce qui est des transits d'armes, j'ai pas d'infos particulières. Il y a un risque aussi que désormais les troupes Tchadiennes normalement sont plutôt cantonnées au nord du pays, ce qui fait craindre un risque de partition de fait, en fait, d'une annexion de fait de toute partie nord du pays par le Tchad, qui stationnerait ses soldats. Le Congo se met à quoi ? Le Cameroun annexant une partie qui est la plus proche de lui, et voilà, chacun se répartissant un petit peu le terrain. Mais pour ce qui est de la fourniture d'armes, je pense que il n'y aura jamais de problème là-dessus, parce que le Sud-Soudan, qui est à côté, donc qui est sur le côté droit du triangle de la Centrafrique, est actuellement en guerre civile à des niveaux du même ordre, voire plus, parce que ce sont deux armées constituées avec chars et véhicules lourds qui s'affrontent. Et donc par là peut transiter, à mon avis, un très grand nombre d'armes via le Soudan, qui est une plateforme connue et reconnue, notamment des armes libyennes qui peuvent arriver depuis le Soudan. Ça peut être tout à fait possible. Donc oui, le conflit peut être armé très rapidement, d'autant plus qu'il y a, un peu comme au Libéria, un moyen de payer, puisqu'il y a des diamants. Donc on a et les moyens d'amener des armes et les moyens de les payer, ce qui fait que ça peut dégénérer.
Une question
pour
d'abord.
Oui. C'est moi.
Bah,
monsieur. Là,
non.
Monsieur.
Bah oui, c'est
juste. Bah oui, enfin, c'est juste. J'ai bien le document. Je sais pas si c'est une source sûre. Apparemment, enfin, le document, c'est d'un journaliste camerounais. Un journée qui s'appelle Roux en plus. Et il dit en fait que l'intervention centrafricaine, c'est juste un immense complot au final pour renverser Paul Biya, parce qu'il a des services de renseignement hyper efficaces et qui apparemment était déjà au courant de l'histoire de Bozizé. Et que.
Au courant de l'histoire de Bozizé, c'est possible. Je crois pas que la situation en Centrafrique soit faite pour renverser Paul Biya.
D'accord. Oui, c'est ce que je me dis.
Qui est extrêmement stable et, comme vous dites, extrêmement bien protégé, puisqu'il a une des forces d'intervention les mieux de la zone. La brigade d'intervention qui est assez performante. Et je crois pas que le Tchad est beaucoup plus concerné par une déstabilisation que le Cameroun, à mon sens. Et à l'heure actuelle, la frontière camerounaise est particulièrement bien gardée, notamment Abdoulaye Michkine, qui est un des personnages qui composait, un des généraux initiaux de la Séléka, qui est un type qui est poursuivi par la Cour pénale internationale, a été arrêté au Cameroun, par exemple, et en bonne due forme. Donc il y a une volonté de limiter au maximum le débordement de la situation de centrafricaine au Cameroun. Oui, après, il est toujours possible que.
Oui, non, enfin, parce que ça me serait bizarre aussi, parce que enfin, Biya aujourd'hui est octogénaire, et enfin, si François Hollande veut sa tête, il n'y a pas besoin de dormir. Oui.
Non, mais véritablement, il n'y a pas de. La lutte est beaucoup plus entre les dictateurs. Mais ça se fait en poussant son candidat à la présidence, c'est de cet ordre-là, plutôt que un conflit qui va déborder sur le terrain, qui n'a pas du tout la même situation. Il n'y a pas de population transfrontalière, par exemple, beaucoup moins, qu'avec le Tchad. La frontière du Tchad est parcourue par les Nomadpeuls tous les ans, les Nomadpeuls font les allers-retours. Donc là, oui, il y a des véritables risques d'infiltration et de déstabilisation du pays. pour le Cameroun, ça me semble pas vraiment possible, d'autant plus que la France fait transiter la majeure partie de ses soldats par le Cameroun, donc elle doit surveiller extrêmement la stabilité de ce pays, qui a d'ailleurs, pour le coup, il s'est aussi transformé en une base française, ce qui n'était pas le cas. À la base, il y avait juste un petit contingent logistique à Douala. Et oui, avec le déploiement français en Centrafrique, le Cameroun a aussi accueilli sa base française pour intervenir plus rapidement.
Ouais, ils ont une base française à Gaoumeré dans le
Cameroun. Ouais, ils avaient l'aéroport, je ne sais plus s'ils l'ont abandonné ou pas, mais en tout cas, oui, de toute façon, le circuit direct pour arriver jusqu'à Bangui passe par le Cameroun, Douala et c'est le circuit classique du commerce centrafricain. C'est un axe majeur.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors il y a monsieur, alors s'il pouvait être. Alors je vais donner la parole à monsieur, parce qu'il n'a pas encore pris la parole.
Monsieur.
Voilà.
Alors moi je me demandais au niveau de l'Afrique, est-ce qu'il peut avoir. Il y a un nouvel acteur qui est la Chine. Et est-ce qu'il pouvait avoir. Un peu du style de ce qui s'était fait dans la guerre froide avec l'Inde, un système de concurrence, enfin un pays qui pourrait.
Entre l'Inde et la Chine
Non, à l'époque de la guerre froide, on a vu.
Si, il y a une concurrence.
On a vu l'Inde un peu s'émanciper en faisant un peu concurrence, en mettant les deux systèmes en concurrence, le système de russe et le système.
Oui.
Voilà, et moi je me disais, est-ce que la Chine arrivant en Afrique, est-ce qu'il y a des gens qui puissent avoir le jeu politique assez fin pour
essayer de se rapprocher de la Chine, pour essayer de faire...
Ouais, pour essayer de mettre en concurrence la France et...
Oui, la France est un plus autre pays. La France est concurrencée par la Chine, mais aussi par d'autres. En fait, on oublie le Brésil, on oublie l'Afrique du Sud, on oublie l'Inde. Typiquement, surtout ce qui est l'Afrique de l'Est. Qui est une zone qu'on ne s'intéresse absolument pas, puisque ce ne sont pas des anciennes colonies, en fait. C'est des pays qui, l'Inde et le Brésil, sont déjà très extrêmement puissants. Et donc, oui, petit à petit, ce sont des pays qui ont des industries importantes et qui vont venir concurrencer les entreprises françaises dans le. Oui.
Attends, je vais en venir à la deuxième question, c'est-à-dire, est-ce que le fait que qu'il y ait ces conflits, en fait, est-ce que ça institue pas un peu. Ça réintroduit pas un peu la France sur le continent africain qui était un peu en perte de vitesse, quoi.
Absolument. C'est quoi, ou en tout cas, les conflits actuels au Mali et alors en Centrafrique, c'est plutôt compliqué parce que c'est plutôt un bourbier et c'est pas prioritaire quand même. Mais typiquement pour ce qui était de l'opération au Mali, ça a permis un redéploiement total de l'armée française au Sahel. On n'avait aucune base hors le Tchad. Dans cette zone, désormais, on a 2300 hommes encore au Mali, on en a au Niger, il y en a en Mauritanie, il y en a au Burkina Faso, on a réhabilité la base d'Abidjan en Côte d'Ivoire. En fait, la France est en train de se redéployer complètement dans cet espace, avec cet argument géopolitique de dire si on ne le fait pas, c'est les Chinois qui vont le faire. Et donc, avec cette espèce de consensus mou au sein des députés français de c'est notre espace. Et donc, en fait, il faut qu'on aille défendre notre espace en Afrique francophone. C'est donc le rapport de force fait, mais après, je n'irai pas jusqu'à dire que la France institutionnalise des rébellions pour essayer de rester au pouvoir. Je n'ai pas d'informations le prouvant.
Monsieur, mais si vous pouvez bien poser une question. Voilà,
la fin
de votre intervention,
c'est tellement une question, c'est-à-dire que c'est un jeu religieux. Alors je comprends.
Synthétique, voilà.
Je tâche toujours de l'être.
D'accord, là c'est parfait.
C'est pas toujours facile pour résumer en quelques secondes le fruit d'un travail très long. Il y a quand même néanmoins un éclairage religieux à mettre dans cette géopolitique de l'Afrique. C'est que quand même depuis un certain nombre d'années, entre le Sénégal, la question de la Casamance, jusqu'au Pakistan, on est quand même entre le Soudan du Sud, la question de la Côte d'Ivoire, la question du Nigeria, hein, on pense même à tout ce qu'il y a eu auparavant. Donc le Tchad n'est qu'un élément de ce collier-là, d'une avancée qui semble inéluctable, disons, de l'islam dans l'Afrique subsaharienne vers l'Afrique équatoriale. Évidemment, quand il y a des failles comme le Centrafrique, forcément, ça ne peut qu'avancer dans ce domaine-là. Il y a aussi le nord du Cameroun où il y a aussi la facilité pour avancer. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'il y a eu des événements dans cette zone-là. Donc, la France, dans cette histoire-là, France n'a pas beaucoup d'argent en ce moment, donc il y a des accords qui ont été signés avec notamment le Qatar, qui lui a des moyens. La France se lie aussi avec le Tchad. Bon, la question du Qatari, la question des financements, disons, de la zone du Golfe arabo-persique est là. On n'en parle pas, c'est pourtant un élément clé dans la question de l'armement de ces zones-là, et aussi du financement des zones politiques qui, à un moment donné, sont plutôt enclins à partir de tel ou tel côté, sans nous, on ne peut pas le savoir, mais certainement que certains le savent. Donc là, il y a aussi un autre éclairage, qui n'est pas de dire, effectivement, il y avait quand même un background religieux, de conflits religieux, qui existe, et qui passe par le biais du financement, et qui, avec tout le contexte des révolutions arabes, avance.
Sur cette question, dans cette question d'argent et de l'islam qui avance, moi je ne parlais pas de ces histoires d'islam, mais on a l'impression d'une vague qui va nous submerger, ça me paraît très, très caricatural et ça fait très peur, mais... Pour ce qui est de la Centrafrique, en tout cas, alors il y a pu y avoir pour le Qatar la rôle trouble en Libye, dans les printemps arabes, au Mali même. Pour ce qui est de la Centrafrique, ce clivage sur une question religieuse entre musulmans et chrétiens, ça a 3 mois. C'est un truc qui n'était absolument pas. C'est sorti extrêmement récemment. C'est un pays qui vit avec des communautés de différentes religions, avec il y a des protestants, des catholiques et des musulmans. Ça a toujours bien fonctionné, mais c'est à l'heure actuelle que ça a été clivé. Et je ne crois pas que typiquement les rebellions aient été financées par le Qatar. C'est extrêmement inquiétant. Et typiquement, beaucoup les médias ont un poids énorme à mon sens. Dans ce clivage, dans la simplification de l'analyse. Puisque, à force de dire que c'est un clivage musulman contre chrétien, en fait, les acteurs eux-mêmes se positionnent comme chrétiens ou musulmans. Ce qui n'était absolument pas le cas à la base. Les milices anti-Balaka, on le voit, sont bardées de gris-gris, ce qui n'est absolument pas chrétien comme démarche. C'est pourtant, on les assimile à des milices chrétiennes. Donc il y a ce clivage de société qui est extrêmement dommageable et qui justement fait ressortir cette espèce de conflit de civilisation qu'on essaye de retrouver un peu partout de l'islam par rapport à d'autres et c'est extrêmement dangereux en fait. Typiquement, ça avait été un petit peu avancé, le risque djihadiste aussi. Au début, en septembre, l'Elysée et quelques-uns disaient « Oui, mais il risque d'y avoir un risque djihadiste en Centrafrique si le pays s'effondre. » Ça a été abandonné même par la communication elysienne, puisque ça va à l'encontre de la situation sur place. Vraiment, il n'y a pas cette dynamique-là, en tout cas pour l'instant. Alors après, ça peut arriver assez vite, notamment via des financements de divers groupements. Mais à la base, cet aspect islam radical et donc un conflit qui serait sur des termes religieux, à mon sens, n'est pas c'est pas la bonne grille d'analyse pour analyser la situation.
Parlé au Mali, par exemple, c'est bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire que depuis des années, les mouvements de l'Azawad avaient essayé de se défendre un petit peu à l'international pour leur revendication de peuples autochtones. Ça n'a jamais fonctionné jusqu'au moment où effectivement des djihadistes ont pu finalement faire cristalliser tout cela. Et après, il y a eu des rassemblements et puis des redislocations. Mais c'est le facteur djihadiste a apporté sur un climat de non-respect finalement des peuples autochtones de ces régions.
À la base, ce ne sont pas les djihadistes qui lancent l'offensive au Nord-Mali.
Bien sûr, mais c'est la goutte d'eau dans ce vase de non-respect finalement par la communauté internationale des peuples autochtones locaux, qui a fait qu'à un moment donné, ça a pris cette tournure.
Il y a beaucoup de questions encore, je propose de faire ici. Ensuite, il y a monsieur...
il y a le monsieur là et il y a encore voilà.
On parle beaucoup de superpuissance, d'hommes de taille, de généraux, de mouvements militaristes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une voix africaine un peu différente dans tout ça qui existe et qu'on pourrait soutenir un petit peu pour ça, je ne sais pas, quelque chose de positif dans tout ça, j'arrive pas à penser qui est que les centres africains qui sont engagés sur dans ce conflit. Qui ont envie qu'il était autre chose.
Juste pour compléter, moi je me demande s'il y a une presse à Bangui, par exemple, alors est-ce que le journal est complètement arminé, est-ce qu'il y a une pensée critique qui peut se développer parmi les intellectuels africains, centrafricains, est-ce qu'il y a une autre position qui commence à s'amorcer, ou qui existe déjà depuis longtemps, qui ne résonne pas en termes de politique aérienne, qui va avoir le pouvoir, qui va être président, en termes d'intérêt stratégique, en termes d'intérêt militaire, ou en termes de milice, ou de prédation, quel argent on peut récupérer. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'à l'intérieur de la communauté centrafricaine, à l'extérieur ou à l'intérieur, est-ce qu'il y a déjà des réflexions qui essayent de s'élaborer de manière autonome en dehors de ces perspectives qui sont commerciales, politiques et militaristes.
Je l'espère.
La diaspora se mobilise. Et je sais qu'il y a notamment un certain nombre d'intellectuels ou de personnes plutôt de la culture qui est plutôt dans une dynamique d'arrêter la guerre, en fait. De stopper, d'essayer de calmer la situation et après pouvoir redémarrer sur une autre. La structuration de la société, à ma connaissance, la société civile centrafricaine est plus faible que dans d'autres régions comme le Mali par exemple, où là typiquement il y a Aminata Traoré ou des gens comme ça qui portent un regard critique tout de suite, qui sont restés mobilisés. Là, la désorganisation touche même aussi ces organisations, puisqu'il y avait par exemple la Ligue des droits de l'homme, ça, qui désormais est un peu. Puisque c'était Nicolas Tiangay qui était premier ministre de l'Occident, on avait fait partie. Donc voilà, il y a sûrement des choses, mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression que le but est d'essayer de trouver la paix. Et il n'y a pas de figures, par exemple, qui émergent comme leader. Pour l'instant, on entend surtout parler des chefs de guerre. C'est eux qui ont la parole.
Alors, je donne la parole à monsieur derrière, parce qu'il doit partir avant de donner. Voilà.
En fait, moi, c'est juste pour revenir sur la question des religions que monsieur a soulevée. Et surtout en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, le conflit, si on a remarqué le conflit en RCA, en Afrique centrale, à un moment donné, il a été transféré comme s'il était un conflit religieux entre musulmans et chrétiens. Et au Mali, c'est pareil. Et au Nigeria, on a ce même problème que le Haram et autres. Et moi, je me dis que le problème de la nouvelle génération africaine, ça va être quoi? Ça va pas être les coups d'État, ni les guerres ethniques. Ça va être une guerre religieuse. Des Noirs qui sont là, musulmans et chrétiens qui se battent. Et moi, la conclusion que je trouve, c'est que si aujourd'hui en Afrique noire, on a ce problème religion et musulmans et qu'il y a une guerre, c'est que ces religions, l'implantation n'a pas marché. On devrait vraiment abandonner ça. Elle n'a pas marché. Si elle avait marché, ça fait des siècles qu'elle est là et que ça ne marche pas. Moi, je suis musulman, mon frère, il est chrétien. Donc, du coup, ça nous divise alors qu'on est plus des Noirs. Au Soudan, c'est pareil. Regardez le Soudan du Sud et le Nord. Les Nordistes disent que les Sudistes sont des Noirs. Alors qu'ils sont plus des Noirs, les autres sont des Noirs musulmans. Parce que les autres sont des chrétiens. Et les Nordistes sont des musulmans, les subissent automatiquement, c'est des Noirs. Donc ça fait la guerre. Et moi, ce que je me dis, je ne parle vraiment pas de la Centrafrique spécifiquement, je parle je suis de l'Afrique de l'Est. Donc du coup, je connais un peu ce problème entre musulmans et chrétiens. Donc du coup, moi je pense que si la nouvelle génération africaine ne fait pas attention, elle va tomber dans ce conflit et ça va pas marcher après. Parce que après les Occidentaux, ils vont profiter de ça, ils vont débarquer. Donc, par exemple, au Mali, ils vont débarquer au Nigeria, ils vont débarquer au Niger, ils vont débarquer, RCA, ça va être pareil. Donc du coup, le Sénégal, ils ne sont pas dans ce genre de conflit, mais je pense que s'ils continuent dans ce délit, ça va arriver. Avec les Mourides qui veulent avoir leur suprématie, ils ont des milices. Le jour que la communauté chrétienne va commencer à parler, ça va péter. Donc du coup, ça va être un peu comme ça. Juste que moi, je pense que la nouvelle génération africaine, nous, on devrait vraiment faire attention à ça, ne pas considérer que le gars est musulman ou chrétien. Et si on a l'esprit panafricain, on a l'objectif. Moi, je pense que c'est ça. Tout ce qui peut marcher, la nouvelle religion africaine, ça va être sur le panafricanisme. C'est tout, pas le musulman.
Il le faudrait, oui, c'est...
tu veux répondre parce qu'il y a encore et après je donne la parole à monsieur
moi je me posais la question de toutes ces interventions, j'avais oublié, moi c'était sur l'Union Européenne, les pays de l'Union Européenne en tout cas ne se bousculent pas pour intervenir en Centrafrique. Je voulais savoir quels étaient leurs intérêts dans cette histoire-là, de manière assez globale, leurs intérêts, leurs industries. C'est bizarre parce qu'on parle de la France, on parle du Brésil, d'autres pays, mais je trouve étonnant que d'autres pays que la France ne jouent pas de jeu en Afrique, alors que visiblement il y a des places à prendre. Enfin,
oui, ou le jouent différemment, pas sur les mêmes zones. Par exemple, les Italiens sont plus sur l'Afrique de l'Est. Mais après, c'est des diplomaties économiques comme dans tout pays. Mais sur la question de l'intervention européenne qui est en préparation, pour l'instant, c'est assez frileux. Parce que je pense qu'un certain nombre de pays voient que c'est quand même une situation très compliquée et que personne n'a d'intérêt. À l'heure actuelle, les contingents qui vont partir, ce serait un contingent polonais, un contingent estonien, finlandais et des géorgiens, qui ne sont pas encore dans l'Union européenne. Mais donc, c'est des contingents qui partent et qui n'ont absolument rien de concret sur place et qui ont surtout à mettre en avant. Après, ils ont à mettre en avant leur place dans l'Europe et c'est plutôt une dynamique européenne plutôt que ça pourrait être en Centrafrique comme au Bengale. Ça, l'idée est d'essayer d'envoyer des hommes. C'est pour montrer qu'on a, typiquement pour la Pologne et la Géorgie, il y a un jeu potentiel vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine à l'heure actuelle, de montrer qu'ils ont des hommes et qu'ils sont assez forts militairement pour en envoyer même dans des pays en crise. Sur cet aspect-là, l'Europe est très timide et s'organise pour l'instant et s'organise toujours sous l'égide de la France. L'opération qui doit être déclenchée, qui s'appellera EUFOR RCA, est dirigée par un général français. Au Mali, quand l'Europe a décidé de former l'armée malienne, c'est un général français qui a pris la tête de la mission. À chaque fois, en fait, la France reste le passage obligé de l'Europe. C'est un petit peu la dynamique, les autres pays n'ayant pas d'intérêt fondamental et pas d'histoire vis-à-vis de ces pays. Bien qu'au Mali, j'ai une bêtise, parce que les Tchèques, par exemple, ont envoyé un contingent assez fort, parce qu'il y a une riche histoire entre le Mali et la République tchèque, notamment au moment de Vladimir Kozita. Donc voilà un petit peu sur les différents pays européens.
Enfin, monsieur, je vous donne la parole. Allez-y.
Moi, j'avais deux questions. La première, c'est de revenir sur cette histoire de religion. C'est-à-dire que vous dites que c'est bien plus compliqué, que c'est pas ça qui est forcément déterminant. Moi, je trouve ça assez affolant, parce que ça veut dire que pour massacrer son voisin, il n'y a pas besoin de grand-chose. La couleur des yeux ou les exemples historiques montrent que les raisons... Tout l'exemple de la Yougoslavie est là pour vous montrer, la destruction de la Yougoslavie. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'à mon avis, même si la religion c'est une raison parmi nous de se massacrer avec des voisins, nous on a connu ça longtemps historiquement, dans la mesure où les religions sont très solides et elles ont une armature de théologie, de croyance, etc. Est-ce que, ma question elle porte là-dessus, est-ce qu'en Centrafrique, il y a un courant comme nous ici à la Griffe, où notre position elle est très claire, c'est que si on ne détruit pas les identités nationales, ethniques, religieuses et autres, si on ne constitue pas un mouvement recomposer de manière radicalement différente, on risque sans arrêt de se tuer avec son voisin. Et donc, est-ce qu'au Mali, il y a un courant qui essaye de reconstruire ce débat social ou autre, quelque chose qui échappait, je ne sais pas, dans le sens de ce que disait Norbert tout à l'heure sur
Quelque chose qui retournerait tout comme ce qu'il peut être. Donc, je n'ai pas connaissance d'un mouvement libertaire centrafricain. C'est pas dommageable. C'est tout à fait possible.
Il y a un mouvement syndical, par exemple.
Tout à fait. Il y a un mouvement syndical totalement désorganisé à l'heure actuelle, vu l'état du pays. Mais j'ai pas connaissance d'un fait libertaire, en tout cas. Et pour ce qui est de la question religieuse...
C'est des raisons de se massacrer, quoi.
Voilà, sur les raisons de se massacrer, c'est pour ça que je suis très prudent avec ce clivage chrétien-musulman, parce qu'en fait, les musulmans, c'est surtout les commerçants. Et donc, en fait, il y a une histoire de pillage qui est directe, c'est pour s'en prendre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont commerçants et en fait, ils sont riches. C'est une question de richesse, en fait. Et d'où l'argument de pourquoi on s'en prend à son voisin, c'est juste que son voisin est riche, et c'est du pillage. Il y a une dynamique de prédation qui est à l'œuvre à l'heure actuelle vis-à-vis de ces populations qui est énorme. Et c'est là que le clivage se fait sur des histoires de richesse. Et il se fait pas sur des histoires. Ils s'attaquent parce que ce sont des commerçants chassiens riches et pour le coup ils sont musulmans. Mais c'est d'abord parce qu'ils sont commerçants et donc ils ont de l'argent.
En Bosnie, par exemple, c'était pas le cas. C'était bien des villages très proches.
Ah ben alors en Bosnie, je suis pas spécialiste de Bosnie.
Le Boko Haram, c'était pas le cas aussi. Bon.
Boko Haram,
c'est pas des commerçants. Hein.
Non, mais c'est un mouvement complètement différent. À ma connaissance, c'est une dynamique d'abord sectaire. Donc c'est en société secrète avec des objectifs particuliers qui visent à étendre son influence sur les hommes qui viennent du nord du Nigeria. Désormais, on l'inclut au sein de la mouvance djihadiste internationale, ce qui ne pouvait rien dire. Mais j'ai pas le temps de creuser le cas de Boko Haram particulièrement. Déjà, on peut noter qu'il y a eu une scission il y a peu de temps, ce qui sous-entend qu'il y a quand même des intérêts de pouvoir au sein même de ce mouvement. Et donc, que la lecture uniquement... que religieuse peut aussi être affirmée par des vantées de domination d'un espace ou des vantées d'accaparement du pouvoir. C'est possible. Je suis pas fin connaisseur de Boko Haram pour me lancer, donc je n'irai pas plus loin, mais je ne le mettrai pas dans le même panier que ce qui se passe actuellement en Centrafrique. C'est vraiment une structuration différente à mon sens.
On prend les dernières questions peut-être,
parce qu'il
est déjà
17h.
Donc, finissez, puis je vous demande.
Oui, ma question, c'était tout à l'heure, j'étais choqué par ce qui a été dit sur le Rwanda. Oui. Est-ce que vraiment, on peut mettre en doute...
Nous, sur lui, on défend. Il n'y a qu'un seul génocide au Rwanda et c'est le génocide des Tutsis, juridiquement.
Vous êtes sur cette position.
Nous sommes sur cette position et nous la défendons. Et nous la défendons d'ailleurs à l'heure actuelle. Il y a un génocide et c'est le génocide des Tutsis. Toute notion de double génocide est totalement.
C'est absurde.
C'est absurde. Et puis surtout avec les chiffres qui ont pu être avancés par monsieur. Mais donc, on est vraiment sur cette. Sur cette ligne très claire d'un génocide qui est une crise sur les Tutsis.
Sur monsieur qui vient intervenir. Enfin, juste dans sa question, il a dit qu'il faut qu'on détruise nos appartenances, nos appartenances cosmiques, planiques, etc. Enfin, moi je pense que c'est pas ça, c'est les transcender plutôt, parce que le but c'est pas de s'uniformiser.
Je suis d'accord.
C'est pour faire un type de personnel. Et puis je voulais aussi dire, je sais pas si ça est vraiment important, mais vous n'avez pas parlé d'Abel Bumba, qui était...
Le candidat malheureux.
Filet compagnon de Bouganda.
Qui a été. Alors Abel Bumba, c'était un compagnon, c'était premier ministre de Bouganda.
Et il a été renversé par Daco en 1960. Mais il a toujours eu une volonté. C'est un des représentants de l'opposition, de l'opposition autre que Ange-Félix Patassé. Il avait le truc, il était assez proche des socialistes pendant la guerre froide, je vois. Donc c'est pour ça qu'il était mis au banc très rapidement. Il s'était représenté en 93 contre Ange-Félix Patassé. Il l'avait perdu une nouvelle fois. Et c'est vrai que c'est un personnage qui a été dans l'opposition, et je crois qu'il est mort d'ailleurs, mais il est mort il y a pas longtemps, voilà, et il n'a jamais pesé, quoi. Il n'a jamais eu sa place dans le... il s'est fait déposséder de sa place qu'il aurait pu avoir par Dalcoz typiquement, et après par Patassé. Il n'a jamais pu revenir, en fait, dans ce cas.
Semblait que John puisque les Africains ne peuvent rien faire, puisque c'est la France qui est plus ou moins au pouvoir, je pense que c'est un peu.
Après, il peut y avoir des événements, on l'a vu en eux, quoi. On n'est jamais à l'abri de la Tunisie, j'ai envie de dire. On l'a bien vu en Tunisie, à un moment où ils ont renversé. C'est vrai que c'était pas un pays. Le problème de la Centrafrique, c'est que c'est des très pauvres. Et donc, c'est des très pauvres qui se battent contre des très pauvres. Les tensions sont encore plus vives.
Je vous prends les deux dernières questions, et puis si vous voulez continuer à avoir des échanges avec Yanis, de toute façon, on va rester un peu ici. Donc, voilà. Donc, y avait encore monsieur derrière, là. C'est ça ? Et puis, on finira par monsieur. Voilà.
En fait, au début, je suis arrivé, je n'avais pas parlé de la
Il en a parlé un peu en Suisse, on va l'arriver à là. Mais vous pouvez poser votre question, peut-être qu'il n'a pas.
Non, je voulais savoir votre point de vue. Peut-être que vous vous intéressez un peu, comme vous intéressez, vous savez ce qui se passe en France, et voilà. Elle peut arriver aux élections, elle va se représenter.
Alors, elle n'aura pas le droit de se représenter. Le candidat le plus probable à la réélection, c'est Martin Ziegler. Qui était un premier ministre, je ne sais plus sous quel mandat, mais qui est un poids lourd et qui justement n'a rien fait pour être président de la transition, parce que le président et le gouvernement de transition, aucun de ses membres ne pourra se représenter pour l'élection présidentielle l'année prochaine, probablement en février 2015. Donc Catherine Samba-Panza, normalement, ne fera qu'un an au pouvoir. Seul le CNT l'aurait eu.
Et donc pour finir,
ça tombe bien. Il se trouve que Martin Ziegler est venu à Lyon il y a quelques années, à l'ECCO. Il a fait une présentation dans le contexte précédent, celui dont vous avez parlé là, récemment. Où il a effectivement essayé de faire un projet politique hors des questions religieuses, hors des questions planiques. Et ce projet, bon, peut-être ça arrivera effectivement. Mais je voudrais revenir sur un aspect du projet de Bobanda. Pourquoi finalement ? Et ça nous fait revenir sur la question, une autre analyse de la situation, c'est une analyse en fait géographique à la base. C'est-à-dire que, effectivement, la Centrafrique telle qu'elle est aujourd'hui, son découpage, le découpage colonial qu'il y a, ce pays, il sera toujours confronté à un certain nombre de problèmes. L'isolement, loin de tout océan, que ce soit de la Méditerranée, d'un côté de l'Atlantique ou du Pacifique, enfin du l'océan Indien. La situation, ce pays lui-même, quand on voit sa géographie, il est à cheval essentiellement sur deux bassins hydrographiques, le bassin donc, qui va sur le Tchad, hein, sur le lac Tchad, et le bassin qui va sur le Bangui et le bassin du Congo. Donc on a une situation déjà qui avait été analysée à l'époque par Boganda, et qui proposait en fait une situation, une espèce de communauté européenne de l'Afrique Donc, l'espèce de communauté à l'image de la communauté européenne, de l'Afrique équatoriale, donc qui faisait partir, ça correspondait aussi à la lecture coloniale de l'époque, mais ça correspond aussi à une réalité potentiellement économique viable, c'est-à-dire en alliant donc ces États qui sont depuis le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Tchad, la Centrafrique, enfin toute cette région-là, effectivement, pourrait, d'un point de vue économique, si elle savait s'allier, pourrait effectivement constituer une identité où elle pourrait merci, où elle pourrait avoir une force politique, une certaine souveraineté, une certaine cohérence, une certaine, et en dépassant tous ces clivages qui localement, il suffit qu'il y ait un petit peu de tracasserie, de manipulation de l'extérieur. Et de ce point de vue, je note que c'est encore présent dans cette réunion-là. C'est vrai que la puissance anglo-saxonne, en passant par les États de l'Afrique de l'Ouest, qui étaient présents au Rwanda, qui sont présents en Centrafrique actuellement par le biais des Rwandais qui sont dans l'Est du pays, c'est vrai que c'est une influence dont on ne parle jamais, mais qui est réellement présente. Et ce n'est pas la seule, on a parlé des autres, hein, il ne s'agit pas de. Enfin, pas qu'ils sont mieux que d'autres, il y a des influences multiples et variées. Et donc la communauté, les gens qui se soucient de cette question-là, et notamment la diaspora qui est un peu quand même un général plus éduqué, malheureusement c'est le cas pour la Centrafrique. Quand les gens sont issus de Centrafrique, ils partent faire des études en général en France ou en Belgique, parfois dans d'autres pays, aux États-Unis, quand ils sont dans ces états, quand ils voient les situations dans ces états-là, ils sont peu enclins à revenir, et de nombreux ne peuvent pas revenir, parce que leur tête, ils sont en danger de mort, simplement. Ils sont en danger de mort. Moi, j'en connais. Donc ces gens-là, tant que la sécurité est présente, quel que soit finalement l'État qui va permettre de faire avancer, et je trouve que la France l'a mis à redéployer. Ça, c'est au moins sur le plan transitoire, c'est une bonne chose. Parce que peut-être on peut espérer qu'à un moment donné, avec avec l'ONU, qui n'est pas prompt à réagir pour ce pays-là, on peut espérer qu'effectivement il y aura une stabilisation qui va faire en sorte de peut-être se zigueler ou des gens comme ça vont essayer de dépasser le contexte habituel, mais aussi en revenant sur des données géographiques de base. Et c'est vrai que le programme de Mandanda n'était pas si idiot que ça.
C'était sûrement pas du tout idiot, mais même. À la base, j'ai l'impression qu'il y a des volontés d'alliance entre les différentes colonies françaises, typiquement entre le Sénégal et le Mali. La France a tout fait pour casser et ne jamais constituer une identité assez puissante pour conquérir. Mais après, sur le projet, je crains malheureusement que même si un personnage charismatique arrive à la tête de la Centrafrique, les poids lourds de la sous-région sont particulièrement accrochés à leur état national. Et on l'a vu pas plus tard que récemment, puisque c'est CEMAC, la Comité économique et monétaire de l'Afrique centrale. Et il devait y avoir, à partir du 1er janvier de cette année, une libre circulation des personnes dans cet espace. Et la Guinée équatoriale a refusé la libre circulation. Donc, sur un point qui est minime, on n'arrive toujours pas à avancer. Donc le projet est sûrement extrêmement intéressant. Il est à faire, comme nous en tout cas de l'Union européenne. Peut-être pas de la même façon comme dans l'Union européenne, on espère pour eux.
Bon, l'heure est passée, il faut que je laisse la place à Digital Emotions. Alors un petit peu d'électronique musique en attendant de l'électronique musique d'ailleurs. Voilà. Ciao, à la semaine prochaine.